14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio, en compagnie aujourd'hui de notre docteur en émotion, Robert Zwilly. Alors, petit rappel, nous avons quatre émotions principales, et celle qui domine notre existence, eh bien figurez-vous que c'est la peur. Alors bien sûr, la peur a sans doute permis à l'humanité de survivre, mais est-elle pour autant toujours bonne conseillère en ce qui concerne nos amours ? Par peur de souffrir, combien de personnes se refusent de repartir dans une histoire d'amour ? La peur d'aimer, c'est un réel handicap à l'amour. Et si on est lucide sur soi-même, on se rend bien compte que nous avons tous des peurs qui vont nous handicaper dans notre vie, dans notre existence, que ce soit d'ailleurs en amour ou dans d'autres domaines. Alors peut-être que c'est dû à notre enfance. Bah oui, parce que petite fille ou petit garçon, nous avons tous eu la peur de déplaire à nos parents. Et nous avons sans doute renié une part de notre personnalité par peur de ne plus être aimé. Quant à ce qui concerne le domaine sexuel, il est évident que nos peurs sont sans doute aussi très présentes. Se libérer de ces peurs, ça serait pourtant bénéfique pour que notre sexualité soit un petit peu plus harmonieuse. Alors avec Robert Zwilly, eh bien pendant ces deux heures, on va vous aider à exprimer vos peurs et peut-être justement à vous en libérer un peu. Parce que c'est peut-être le seul moyen d'avancer, c'est déjà de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce mot peur. Notre numéro, n'ayez pas peur, 0826 300 300. Bonjour Robert Zwilly.
Bonjour Brigitte, merci de m'accueillir.
Docteur en émotion, ça vous va comme titre?
Docteur, oui, ça me fait un peu peur parce que voilà. Je pourrais me prendre pour un imposteur parce que je n'ai pas le titre de docteur.
Vous savez qu'on met ce mot docteur à toutes les sauces maintenant. Hein.
Oui. Mais on pourrait m'en faire le procès en disant mais pourquoi on vous appelle docteur, vous n'êtes pas médecin. Je suis psychologue clinicien, mais effectivement cet attribut que vous m'accordez, elle mérite de poser simplement le fait que je connais un peu ce domaine de l'émotion. Et que un docteur est censé...
Ne soyez pas modeste, Robert. La qualité que vous avez, je vais le dire en deux mots, on va pas faire votre curriculum à l'antenne. Hein.
Non.
Mais c'est qu'au départ, vous êtes plutôt un chef d'entreprise, enfin en tout cas quelqu'un qui travaillait dans le monde de l'entreprise. Et c'est tout doucement que vous avez découvert à quel point l'émotion était présente aussi dans le domaine de l'entreprise et vous l'avez analysée, si je puis dire, d'une manière très concrète et vous avez un langage pour nous expliquer les émotions qui est en effet assez qui sort de l'ordinaire, qui est donc assez extraordinaire.
Alors, merci, c'est très gentil de le témoigner. Ce qui m'apparaissait important, c'est de réaliser en fait à quel point, même quand on est sur notre lieu de travail, bah, finalement, la personne que nous sommes vient avec ses émotions. Parce que nous sommes des êtres d'émotion avant d'être des hommes de raison ou des femmes de raison. La raison n'étant là que pour, si je caricature et provoque un peu, mais c'est très... C'est ce que j'ai développé dans mes modèles théoriques et je l'ai longuement expliqué. Mais la raison n'a que de cesse de légitimer en allant chercher dans les faits des points qui vont justement donner raison à notre ressenti. Et ce ressenti, il n'est qu'une lecture alternative de la réalité qui est le fruit de l'interaction de nos émotions avec justement cette réalité. Or, quand on est dans l'environnement professionnel, ben forcément, on n'a pas à l'accueil un placard où on dit ben, « Tenez, je vous laisse mes émotions, je les reprendrai ce soir parce que c'est encombrant. » Et donc, on les emporte avec nous, elles vivent avec nous, sauf que chacun d'entre nous, comme on ne nous a pas donné le manuel quand on était petit, et je fais exprès de dire petit, parce que ça pose un vrai sujet qui est la sensibilisation et l'éducation de nos enfants à ce sujet aussi qui est le rejet de l'émotion.
Par exemple, je vais prendre un exemple très concret hein, pour que tout le monde comprenne bien ce que vous êtes en train de dire. Une femme qui a eu un père qui avait tendance à élever un peu la voix, à crier, qui lui faisait peur, pour peu qu'elle tombe sur un dirigeant qui parle un peu fort, ça y est, elle perd ses moyens.
Oui, elle perd ses moyens, elle revit un scénario qui se substitue à sa réalité, à son histoire, à son expérience personnelle. Et c'est ça qui est difficile dans le monde professionnel, c'est d'essayer de décorréler son histoire intime de ce qui se joue dans l'organisation sociale qu'est l'entreprise. Parce que au cœur de tout ça, ce sont des liens. Et les liens sont porteurs d'émotions. Et ça commence très tôt. Les premiers liens que nous avons, ce sont ceux qui caractérisent la relation que nous avons avec nos parents quand on a la chance de les voir.
Alors, c'est difficile dans le monde de l'entreprise et on imagine encore plus à quel point ça peut être difficile dans le domaine sentimental, puisque forcément, il y a encore plus d'affect et donc les émotions sont exacerbées.
Il y a un facteur aggravant qui est le sentiment ou la passion qui vont constituer... je parlais de réalité alternative, qui vont constituer un élément supplémentaire dans cette amplification de la perception de la réalité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que nos émotions fonctionnent comme un système de réalité augmentée. C'est-à-dire que vous prenez une femme avec deux hommes, elle va avoir une réflexion, chacun des hommes ne va pas du tout l'entendre de la même façon.
Bien sûr.
Chez l'un, ça va résonner comme un reproche, chez l'autre, ça va résonner comme une invitation. Et c'est ça qui est fabuleux dans la relation amoureuse, c'est que c'est la rencontre en fait de deux systèmes émotionnels qui doivent coexister, cohabiter, s'interpénétrer dans tous les sens du terme après dans la relation et qui est porteur potentiellement de souffrance. Et bien, quand on a eu des expériences douloureuses, comment faire pour ne pas pour éviter de rejouer des scénarios qui donnent raison à nos peurs?
Alors, est-ce que vous êtes d'accord que finalement, beaucoup d'êtres humains, par peur de souffrir à nouveau ou par peur de souffrir tout court, s'empêchent d'oser aimer, d'oser vivre des aventures, d'oser...
Et évidemment, c'est quelque chose qui est très récurrent. C'est que la blessure que laisse une trahison... Et tout à l'heure, j'ai bien aimé un point, c'est que vous disiez, oui, finalement, l'émotion... peut-être la plus délicate et qui apparaît le plus souvent, c'est la peur dans nos souffrances. Et c'est parce qu'on a peur, parce qu'on souffre, qu'on a peur de revivre des souffrances, qu'on s'abstient d'être heureux. Potentiellement, c'est ça la mécanique. Mais l'expérience a souvent généré, avant la peur, de la colère. C'est-à-dire que la peur est une conséquence de colère dont le scénario pourrait se rejouer. Si j'ai vécu une expérience malheureuse parce que j'ai été trahi par quelqu'un que j'aimais, c'est très, très injuste cette trahison. Surtout si, en plus, elle est rendue publique et que se rajoute une autre blessure qui est l'humiliation. Et qui fait que, du coup, on se sent rejeté et que, encore une autre blessure, l'abandon. Vous voyez qu'on peut cumuler plusieurs blessures qui, en fonction de notre histoire personnelle, vont rendre très fort le préjudice et donc la colère associée. Et plus cette colère et ce préjudice auront été forts dans notre histoire, plus la peur de le rejouer va venir s'imposer. Et malheureusement, cette peur-là va nous inviter à, bien souvent, malgré nous, à nous donner raison et à faire en sorte de revivre une expérience qui nous dira « tu vois, j'avais bien raison d'avoir peur, puisque
oui,
regarde,
on choisira,
je suis à nouveau trahi. »
Le ou la partenaire qui va à nouveau nous prouver.
Exactement.
C'est là où moi, je parle souvent aussi de nos croyances qui sont là pour nous donner raison dans nos émotions.
Qu'elles soient favorables ou défavorables.
Exactement. Alors, ce qui est important quand même à dire, c'est que quand on n'arrive plus à aimer à nouveau, à s'engager, etc., il faut analyser de quoi on a peur, pourquoi on a peur. Et c'est peut-être un peu le sujet aujourd'hui. On va essayer d'aider les gens à s'éclairer sur leur peur.
On peut l'appréhender de manière tout à fait rationnelle, sans que ça atténue la portée ou que ça simplifie de manière caricaturale le sujet. Mais oui, c'est pas une fatalité que de savoir gérer ses peurs. Maintenant, faut aussi accepter d'accueillir pleinement ce qu'on ressent.
Et c'est là où on va vous demander de nous appeler et d'exprimer avec vos mots. Et nous, on va essayer de décoder dans vos mots qu'est-ce que ça cache comme
oui, qu'est-ce qui se joue.
Alors, sur la sexualité, moi je vais aller encore plus loin, Robert Zwilly. Je crois que souvent les peurs par rapport à la sexualité, elles sont pas dues à des expériences ou à des souffrances, elles sont dues à un manque de liberté corporelle ou de liberté par rapport à un sujet qui en effet est encore tabou, est encore complexe.
Oui.
Vous êtes d'accord avec ça ou pas?
Oui, alors je suis d'accord, mais j'y verrai au fond probablement une pierre angulaire à ces deux dimensions, qu'on soit dans la sexualité ou dans la relation affective. C'est qu'au fond, tout ça, ça touche à un concept clé qui au cœur de l'être, l'apostrophe, c'est l'estime de soi. C'est-à-dire que quand vous avez été trahi, quand vous avez vécu une blessure, forcément ça porte atteinte à l'estime de soi. Et donc, cette blessure aura d'autant plus d'impact que toute notre vie qui aura précédé cet événement nous aura permis ou pas, justement, de consolider, d'étayer notre estime de soi. si on a été aimé, si on a été encouragé, si on a été soutenu, si on s'est senti reconnu, probablement que nos blessures auront moins d'impact.
Alors pour revenir à la sexualité, si on est bien dans son corps, si on a été caressé au sens évidemment beau du terme, on devrait normalement être plus à l'aise dans sa sexualité en tant qu'adulte.
Et ça renvoie à l'estime de soi, c'est-à-dire quel regard on porte sur son corps.
J'ajouterais même confiance en soi.
Confiance en soi qui est pour moi dans la hiérarchisation émotionnelle une conséquence ou pas de l'estime de soi. C'est-à-dire que ce qui alimente nos comportements.
Je crois que on peut avoir confiance en soi sans pour autant avoir une si bonne estime de soi. Et on va oser, parce que c'est souvent la confiance en soi qui fait oser, et je sais de quoi je parle, aller vers des terrains un petit peu scabreux, et puis finalement après...
Bien sûr, mais l'élément qui pour moi fait le lien, et vous avez raison, c'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui ont une estime de soi élevée et qui manquent de confiance en eux, et l'inverse. Parce que le lien qu'il y a entre les deux, c'est l'audace. C'est l'autorisation qu'on se donne à exercer ou pas cette estime de soi. Et il y a des gens qui savent qu'ils n'ont pas d'estime d'eux, mais d'estime d'eux-mêmes, d'estime de soi élevée, mais qui vont, pour se challenger, pour se mettre un défi, se poser...
C'est le challenge des grands timides, par exemple.
Par exemple. Et se mettre un défi, une conquête qui va leur permettre de se démontrer qu'au fond, ok, ils ne sont peut-être pas très sûrs d'eux au fond, mais ils peuvent afficher une confiance en soi.
Eh bien, on va vous aider à vous libérer de vos peurs ou en tout cas à mieux les comprendre et puis tout doucement les apprivoiser. Vous n'hésitez pas à nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Avec Robert Zully qui est avec nous aujourd'hui, psychologue clinicien et également... Alors je ne sais plus qu'est-ce que je dois dire, hein. Expert en émotion, ça vous va? Expert, on met ça à toutes les sauces.
Oui,
hein,
oui, oui, non, mais sentez-vous à l'aise de me qualifier comme vous le souhaitez.
Non, mais vous me faites un peu peur, hein, vous savez, Robert.
J'imagine bien que... Et je vous sens très anxieuse aussi, donc...
N'est-ce pas, hein? Donc, alors venez à mon secours, appelez-nous au 0826 300 300, venez à mon secours, venez exprimer vos peurs, vous aussi. Zoé, bonjour.
Bonjour Brigitte.
Bonjour Zoé.
Bonjour à votre invité.
Bonjour Zoé.
Robert Zully qui est avec nous. Un Z comme votre prénom.
C'est ça.
Oui, une très belle lettre.
Non, elle est plus belle que les autres, Zoé.
Ah bon? Parce qu'elle finit, non?
Oui, ça permet de finir en beauté.
Oui, d'accord. Hein?
C'est vrai que c'est une jolie lettre, le Z, je trouve. Mm. Hein? C'est... Moi, je pense à Zorro. Alors,
voilà, il ne faut juste pas la mettre de côté, parce que sinon, ça se transforme en haine.
Alors, attendez, je n'ai pas saisi. Ouais,
d'accord,
saisi, vous, Zoé?
Oui.
Brigitte, voilà. Vous n'avez qu'à la renverser et ça se transforme en haine.
Ah oui, d'accord, oui. Bon, ok. À la radio, vous avez raison, c'était un jeu de mots tout à fait visuel.
C'est ça, c'est abstrait.
C'était très bien, Robert Zully. Bon, Zoé, on va y arriver. Donc, vous avez peur ou vous avez peur d'aimer? Vous pourriez dire ça?
Alors, je ne sais pas si c'est ce mot exact qu'il faudrait mettre, parce que moi, je n'en sais absolument rien, dans le sens où je crois que je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas s'il y a une... J'ai pas envie d'être brouillon, hein, mais...
C'est pas grave, allez-y, exprimez-vous, il en sortira quelque chose.
Je crois que je ne sais pas le faire, ou je ne sais pas le... Enfin, je le montre, mais je ne sais pas le dire.
Alors, est-ce que vous l'avez entendu vous-même, quand vous étiez enfant?
Non.
Parce que... Dans les modèles éducatifs que nous recevons, bien sûr, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'exemplarité et qui fait que quand on voit quelque chose se produire, on a tendance à le répéter. Donc, quand on n'entend pas des mots d'amour, c'est vrai que c'est compliqué d'oser les dire ensuite.
Mais est-ce que vous avez eu l'impression d'être aimée quand vous étiez petite fille?
Non, pas du tout. Mais du coup, moi, je trouve que c'est pas facile, en fait, quand on est adulte.
Mais vous avez,
mais vraiment,
vous avez aimé vos parents, ou pas?
Ça, c'est comme si c'était, je vais pas dire une obligation, mais c'est naturel chez moi. Enfin, c'est naturel. Enfin, ça me semble naturel de les aimer.
Oui, mais ça l'est. Je veux dire, non, mais je crois que ça c'est important ce que vous venez de dire, et on commence bien, on commence par le début. Le petit enfant, quand il vient au monde, il est dans la nécessité, puisqu'il a besoin de ses parents, donc il est dans la nécessité de les aimer.
Il se pose pas la question de s'il les aime ou pas, d'ailleurs.
C'est ça.
Quand on a besoin de quelque chose, quelque part, on n'est pas loin de l'aimer. Vous voyez ce que je veux dire sur un plan psychique, il faut savoir qu'un petit enfant avant l'âge de 3 ans, il n'a aucune réflexion.
Mm-hmm.
Donc il passe dans l'amour de ce sein qui le nourrit, ou de cette main qui le porte, et puis après dans la peur abyssale de tout d'un coup se retrouver complètement désespéré, sans défense.
C'est après que je m'en souviens pas de ça.
Non, mais moi non plus, hein, et Robert non plus, on se souvient pas de ces premiers instants qui forcément nous ont marqués. Alors ensuite, au fur et à mesure qu'on grandit, on fait comme on peut. Mais tant qu'on n'a pas une capacité à se débrouiller tout seul, on est dans le besoin, et en tout cas dans l'attente des autres. Et donc, quelque part, on les aime dans une sorte de dépendance affective. Donc, c'est intéressant ce que vous avez dit, parce que vous avez dit, en quelque sorte, je me sentais le devoir d'aimer mes parents. Hein, c'est un peu ça que vous avez dit.
Oui.
Mais parce que
c'est un fait.
C'est une question de survie.
Oui, moi je la pose pas comme ça. Comme je vous avais dit, c'était naturel. Après au jour d'aujourd'hui, moi j'aurais tendance à dire que ça, qu'il n'y a rien eu après, quoi. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, puisqu'au jour d'aujourd'hui, je suis dans des relations qui dans lesquelles, en fait, je dis amène à tout, mais finalement, je me...
Mais est-ce que, aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous aimez encore vos parents, ou est-ce que vous avez fait part des choses et... Ah bah, vous voyez, la réponse,
non,
elle est...
Non, je les aime toujours.
La réponse,
mais je renvoie quand même par moments. Hein. Il m'arrive certains événements où je...
Ça coexiste très fréquemment, vous savez, d'aimer ses parents, mais que nos parents se montrent, entre guillemets, défaillants à certains égards, et qu'on puisse leur en vouloir. C'est légitime, et c'est comme ça aussi qu'on se construit, pas simplement dans ce qu'on nous a donné, mais dans ce qu'on ne nous a pas donné et qu'on peut voir par ailleurs. Et ça m'invite à vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez vu des modèles d'amour autour de vous?
Enfin.
Non, pas vraiment, quoi.
Donc vous avez...
En fait, moi, j'ai tendance à dire que c'est difficile au jour d'aujourd'hui de jouer avec un sac vide, quoi, presque ça. J'ai rien, quoi.
Eh oui.
Non, vous n'avez pas rien, parce qu'il y a eu, après toute la période à partir de 7-8 ans, où on rencontre d'autres personnes, on voit des films, on a des repères qui nous permettent de nous construire. Vous avez certainement pleuré dans des belles histoires d'amour au cinéma, ou des choses comme ça.
Oui.
Vous voyez, et ça a construit en vous une image aussi de ce que pourrait être l'amour.
Oui, mais au niveau du ressenti.
Oui, mais ça nourrit votre émotionnel affectif, tout ce qui vous a entouré. Oui. Vous voyez, c'est-à-dire que moi je suis d'accord, hein, nos blessures d'enfance, elles sont fondamentales, mais il faut faire attention aussi de ne pas croire que c'est que ça qui va nous construire et faire de nous des futurs...
Oui, mais j'entends de Zoé, c'est qu'elle aurait besoin d'éprouver l'amour, le sentiment amoureux dans la relation, de voir ce que ça implique, pour se dire qu'elle a aimé. C'est ça que j'entends, Zoé. Alors, je ne sais pas si je me trompe.
Zoé va nous répondre dans un instant. Vous restez avec nous, Zoé, et on va continuer à essayer de vous aider, parce que, en effet, j'ai l'impression que c'est complexe, et c'est vrai que c'est important. Et votre témoignage est notamment important pour démarrer cette émission, parce qu'on est en plein dans le cœur, si je puis dire, du sujet.
14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
On parle de l'amour et on est avec Robert Zwilly, donc notre expert en émotion. Et Zoé, vous nous avez dit donc que c'était compliqué parce que vous savez pas trop ce que c'est qu'aimer, vous savez pas trop et pourtant vous semblez avoir aimé quand même, non?
En fait, j'ai plus l'impression d'avoir eu plus les liens d'attachement vis-à-vis des personnes et de besoin d'une personne, besoin de que aimer. Mm-hmm. Aimer, normalement, c'est sans intérêt, c'est sans rien, c'est sans. Mm-hmm. En fait, c'est plus. Moi, j'ai pas eu ça.
Mais quand vous dites,
pas l'impression d'avoir.
D'accord. Mais c'est intéressant parce que vous parlez. Je parlais tout à l'heure de quand on a besoin de quelqu'un, quelque part, on n'est pas loin de l'amour. Et quand vous dites j'ai eu des besoins affectifs, ça vous a. Comment dirais-je? Ça vous a aidé à trouver la vie meilleure quand vous étiez justement dans une relation avec ce besoin d'affectif?
Mais. Alors, je voudrais pas. Il y a l'histoire d'attachement qui m'a amené beaucoup de qui m'a sécurisé même trop et la relation avec le besoin, mais le besoin n'a fait germer rien en fait, c'est juste des besoins là ponctuels, besoin de ci, besoin de ça. Et puis maintenant j'ai peut-être pas besoin de, j'ai pas envie de rompre maintenant, j'ai encore besoin. Voilà, c'est presque utiliser une personne ou...
Oui, vous parlez en termes en termes fonctionnels, Zoé.
Voilà.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si vous vous étiez interdite de désirer quelque chose ou d'avoir envie de quelque chose pour vous. Comme si vous pouviez assumer d'être quelqu'un qui pouvait oser avoir envie de quelque chose pour soi. Quelle est la dernière chose que vous avez désirée?
Alors, je me suis acheté 3 macarons, ce midi. Voilà.
C'est bien.
C'est la gourmandise.
Vous avez fait plaisir.
Ouais, mais je vais pas dire que ça. Il faut que ce soit maintenant. Faut pas que je réfléchisse parce que sinon après c'est foutu, je les achèterai pas.
Ah oui.
Faut que je me force presque à me faire violence.
Oui, mais c'est ça. C'est quelque chose de l'ordre de l'autorisation. Si vous m'autorisez à simplifier les choses, vous ne vous êtes pas senti aimé véritablement. Vous n'avez peut-être pas entendu des mots d'amour. Forcément, vos parents vous ont aimé, peut-être de manière maladroite. Peut-être eux en étant conscients de cette maladresse ou pas du tout. Mais au fond, aujourd'hui, ce qui pose la question, c'est qu'est-ce que vous pouvez, vous, vous accorder comme désir, et qu'est-ce que vous vous autorisez alors que peut-être vous ne vous êtes pas senti aimé. Et c'est cette reconquête qui s'impose à vous, Zoé, de vous accorder cette envie de vous aimer d'abord vous-même et d'aimer les autres et d'éprouver cette relation. C'est comme si une option n'avait pas été activée chez vous, mais vous avez encore toute la latitude de vous autoriser à l'activer.
Oui, mais je trouve que c'est partir dans le néant, quoi. Je trouve que c'est très dur de...
Dans le
néant.
Dans le néant, et j'ai pas...
Et on revient à votre sac vide. Hein.
Oui, oui.
Et voyez, quelque part, dans cette notion de néant, de vide, c'est que c'est un gouffre. Vous avez l'impression que si vous commencez à envisager d'aimer... Vous allez vous perdre tellement c'est un gouffre sans fond.
Ça va tomber dans ce vide.
Voyez, et donc pour l'instant vous avez raison, protégez-vous. Il faut pas, c'est trop dangereux pour vous. Mais en même temps, à un moment donné, si vous avez appelé, c'est que vous avez quand même envie qu'on vous aide à apercevoir ce que ça pourrait être. Alors moi je me demande si dans un premier temps, il faudrait pas déjà que vous vous posiez la question, peut-être. Vous faire aider d'ailleurs, qu'est-ce que ce serait que s'aimer soi-même?
Qu'est-ce que vous faites pour vous faire plaisir, Zoé, du coup?
Alors là, j'ai essayé de travailler sur moi, et depuis à peu près, je crois que c'est le mois de mars, je commence à faire des cours d'équitation, parce que je me suis dit que ça allait forcément me travailler sur ma densité, on va dire ça, mais au niveau caractère, parce que du coup, je dis oui à tout. Et je passe pour un pantin, alors que c'est pas forcément ce que j'ai envie, quoi. Et que lorsque
Vous savez pourquoi vous dites oui à tout?
Bah pour éviter des colères éventuelles ou des...
Oui, mais on dit... Vous savez, Zoé, je vais vous donner une clé toute bête, hein, qui est un petit peu le béaba de la psychologie. Souvent, on dit oui à tout parce que quand on dit oui, on croit qu'on va être aimé. Et quand on dit non, on croit qu'on va plus être aimé. C'est aussi basique que ça. Et donc, ça veut bien dire qu'il y a au fond de vous, malgré ce que vous m'avez dit... un besoin d'être aimé, mais c'est normal, c'est humain et on est tous avec ce besoin-là. Mais ce besoin-là, pour vous, il est encore très dangereux. Et vous avez raison d'aller vers les animaux, parce qu'avec les animaux, il peut y avoir un échange d'amour qui est beaucoup moins ambigu.
Sans contrepartie.
Et quand vous êtes sur un cheval, quelque part, vous êtes porté, vous êtes sécurisé. Ce qui n'a peut-être pas été le cas dans les bras de votre mère. Vous comprenez ?
Mais je trouve que c'est... Oui, mais je trouve que c'est pas... La relation, elle est faussée, quelle qu'elle soit, en fait.
Mais c'est votre impression, c'est votre croyance.
Oui.
Mais c'est pas forcément la réalité. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous écoute et que finalement c'est faussé ? Ou est-ce que vous avez l'impression quand même d'être un peu écouté ?
Alors, en fait, je vais presque dire que ça dépend de la personne qui est en face.
Eh bien, avec nous, là.
Là, dans cet instant.
Ah oui, non, là, oui, je suis écoutée. Oui, oui.
Vous voyez ? Oui, oui. Donc, c'est pas toujours faussé. Mais si vous partez sur ce principe que c'est faussé, forcément...
Parce que moi, je suis forcément en retenue, en fait.
Bien sûr,
donc,
bien sûr.
C'est là où je dis que c'est faussé. Et je trouve que les relations...
Mais vous êtes... Vous vous protégez, Zoé. Vous protégez parce qu'il y a des grandes blessures qui, pour l'instant, n'ont pas été cicatrisées.
Réparées. Et forcément, c'est simple de dire que c'est faussé, parce qu'au fond, il y a un fossé entre vous et les gens. Donc, c'est important de combler ce trou. Et pour ça, il faut accepter de faire confiance, il faut accepter d'être déçu. Et c'est l'un des points souvent cruciaux dans nos expériences émotionnelles, c'est qu'une fois qu'on a été déçu, on n'a pas envie de revivre ça parce que ça nous a fait souffrir, et on est très, très précautionneux. Et vous, en vous disant que de toute façon c'est faussé, vous mettez probablement dans le scénario d'être confronté effectivement à des relations qui seront faussées, parce que ça sera important pour vous de vous démontrer que vous avez raison, même si ça vous fait souffrir potentiellement. Et c'est ça toute l'ambiguïté de ce rapport à nos émotions. Mais ça veut dire qu'il faut oser vous éprouver la joie, le plaisir, pour vous, égoïstement aussi. Et c'est un apprentissage à faire. Et ça, c'est vraiment des exercices que vous devriez vous imposer dans un travail avec quelqu'un qui pourrait vous accompagner à le faire, et en qui vous auriez confiance et vis-à-vis duquel vous ne verriez pas un fossé dans la relation.
En tout cas, Zoé, je vous remercie de votre confiance et je vous assure que c'est possible tout doucement de remplir son sac vide. Je vous embrasse. On retrouve notre sexy news du jour, Anaïs Deban, aujourd'hui, et vous allez nous parler de Marguerite Duras,
oui,
fameux auteur de L'Amant.
Oui, exactement. Alors, je vais commencer, comme à la saison dernière, par vous lire un petit texte d'elle. « Je suis exténuée du désir d'Hélène Lagonelle. Je suis exténuée de désir. Je veux emmener Hélène Lagonelle là où chaque soir, les yeux clos, je me fais donner la jouissance qui fait crier. Je voudrais donner Hélène Lagonelle à cet homme qui fait ça sur moi pour qu'il le fasse à son tour sur elle, ceci en ma présence. Qu'elle le fasse selon mon désir, qu'elle se donne ou moi je me donne. Ce serait par le détour du corps d'Hélène Lagonelle, par la traversée de son corps, que la jouissance m'arriverait de lui, alors définitive. » Donc je viens de vous lire un extrait de L'Amant, où elle parle de son amie du pensionnat, qu'elle voit allongée à moitié nue, en rentrant tard la nuit, après avoir passé la soirée avec un homme, cet amant donc. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que L'Amant m'a accompagnée une partie de l'été. J'étais au Vietnam pendant un mois et demi, et comme vous le savez peut-être, Marguerite Duras a grandi dans l'Indochine française. Alors j'ai lu L'Amant là-bas, dans la même atmosphère humide et chaude où elle a grandi, mes mains moites, accrochées au livre, et mon cœur battait un peu plus fort à mesure que...
Pas qu'au livre, j'espère.
Non. Et mon cœur battait un peu plus fort à mesure que je tournais les pages. Et il paraît qu'il faut lire Marguerite Duras à voix haute. Et c'est ce que j'ai fait aussi un peu. Alors pour Marguerite Duras, on désire comme on écrit, toujours. Et puisqu'elle a excellé toute sa vie dans les deux domaines, eh bien, je vous invite, vous aussi, à murmurer à votre amant quelques passages de ses œuvres. Il y a par exemple une merveilleuse description du cunnilingus dans son roman « Les yeux bleus, cheveux noirs » et vous nous en direz des nouvelles. Mais revenons à son enfance. Ah, je vois Robert tout d'un coup, les yeux écarquillés, prenant des notes. Revenons à son enfance, Marguerite.
Parce qu'il y a un mode d'emploi du cunnilingus dans Marguerite Duras. Vous voyez, ça me fait la découvrir
et l'aimer un petit peu plus.
Oui, ça, c'est pas difficile.
Marguerite Donadieu, donc, de son nom de jeune fille, était une exotique. D'abord blanche parmi les indigènes, puis fougueuse et sauvage parmi la bourgeoisie parisienne. Depuis qu'elle est enfant, on dit à la mère de se méfier. Elle a le vice dans le regard, cette petite. Dans L'Amant, Marguerite Duras écrit « J'avais en moi la place du désir. J'avais, à 15 ans, le visage de la jouissance et je ne connaissais pas la jouissance. » Elle savait depuis petite qu'elle allait écrire et qu'elle allait désirer, aimer faire l'amour avant même d'expérimenter l'un et l'autre. Donc sa mère est pauvre, son combat contre l'administration française au Vietnam l'amène à la folie, une folie quasi furieuse, elle entretient avec sa fille des rapports flous entre dégoût et attraction, et c'est exactement ce même rapport que Marguerite aura avec ce riche amant chinois qu'elle rencontre alors qu'elle est adolescente. Il deviendra l'amant, celui qui lui fait découvrir la jouissance, celui qui la révélera aussi à elle-même. Être désirée par ce Chinois, un peu frêle comme elle le décrit, lui a d'abord permis de s'affirmer. Elle écrit « Depuis qu'il était fou de ce corps, la petite fille ne souffrait plus de la voir. » Même la mère, qui lui rabâchait des atrocités, s'était calmée. Puisque la fille avait été aimée au moins une fois, eh bien c'est sûr qu'elle le serait à nouveau. En tout cas, celui-là, elle le rendait fou. Il pouvait par exemple lécher l'intérieur d'une bague qu'elle venait d'arracher à son doigt pour avoir un peu plus d'elle. Duras a toujours su soutirer quelque chose de très concret d'une rencontre sexuelle, mis à part un orgasme. Avec cet amant, ce sera évidemment un strike. Il l'aidera non seulement financièrement, il aidera la famille de l'adolescente, mais rendra aussi l'écrivaine riche, puisqu'elle obtiendra, grâce à ce livre, le Goncourt en 84 et il se vendra à des millions d'exemplaires.
Donc l'amant, hein, c'est bien ça.
L'amant, exactement. Oui. Tous les acteurs de la vie de Marguerite sont devenus les personnages de ses œuvres. Faire l'amour avec Duras, c'était avoir la certitude que l'on fera la quatrième de couverture d'un de ses romans un jour, ce qui est quand même beaucoup plus élégant que de se taper Paris Hilton dans une piscine pour faire la couverture des magazines. C'était une autre époque. Mais cette première histoire lui a aussi permis de gagner une nouvelle importance au sein de cette famille aussi pauvre que triste. Elle avait deux frères, le père était mort assez jeune, et l'amant, il raquait, il invitait tous les soirs tout le monde à dîner dans des restaurants hyper chers. Marguerite dira plus tard, la petite n'a pas été violée, elle a été donnée par sa mère à l'amant. La mère, dans un jeu de culpabilisation,
faudrait savoir. Au début, elle dit, vous m'avez dit qu'elle était ravie de découvrir enfin là un amant. Et
oui.
Là, tout d'un coup, c'est sa mère qui lui a jeté dans les bras.
Au départ, elle voit là un homme sur un bateau avec une très très belle voiture. Et le regard de cet homme sur elle...
Ouais. Moi, j'y vois encore une fois une rivalité mère-fille. Et
ah bah ouais, certainement.
Une difficulté en tant que fille de s'autoriser ses excès et de donner finalement la culpabilité à la mère.
Et c'est pour ça qu'il y a eu entre attraction et dégoût, c'était qu'elle y allait et qu'elle continuait à y aller, parce qu'ils ont passé quand même des nuits, toutes les nuits ensemble. Mais elle a mis beaucoup de temps à se dire qu'elle pouvait peut-être l'aimer. Et d'ailleurs, c'est le dernier passage du roman L'Amant où elle se dit que finalement, on voyant le bateau partir pour la France, elle est dedans après son baccalauréat, elle se dit que finalement, en fait, elle l'aimait peut-être, cet amant. Mais sa mère, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle y est allée parce qu'elle savait qu'il était riche. Elle pouvait à la fois traiter sa fille de putain parce qu'elle avait succombé et lui demander de soutirer de l'argent à cet homme quand ça l'arrangeait également. Mais quand même, c'est véritablement le récit d'un apprentissage sensuel, c'est ça qu'il en ressort. Les amants se voient tous les jours, ils pensent même à se marier, mais évidemment, c'est un riche indigène et elle une blanche sans fortune, donc l'union ne se fera jamais. La fille est salie à la colonie, tout le monde sait qu'elle couche avec le jaune, hein, comme ils disent. À la pension, on tolère sa présence, mais on ordonne aux jeunes filles de ne plus lui adresser la parole. En revanche, si elle est salie par le sexe, elle est lavée par son écriture. Lorsqu'elle lit ses dissertations à haute voix dans la classe, force est de constater que le talent est plus grand que la faute. Marguerite a eu beaucoup d'amants après ce tout premier. Pourtant pas très belle, elle attire souvent les regards. certainement grâce à cet exotisme dont je vous parlais plus tôt et à son esprit aussi. Elle aime se rendre compte de son pouvoir attractif, comme la première fois sur ce bateau avec l'amant. On lui rabâche par exemple qu'elle a de beaux et longs cheveux, et bien elle les coupe pour se rassurer et pour constater que même sans, et bien elle continue à plaire. À Paris aussi, certains hommes couchent avec elle et lui donnent de l'argent. Et grâce à ça, elle arrive à avoir la vie mondaine dont elle rêvait depuis longtemps. Elle est amoureuse souvent, mais toujours infidèle. Elle est très claire là-dessus. Elle pense que l'écriture doit se nourrir d'un désir sans cesse renouvelé et que le couple exclusif ne permet pas ça. Pour elle, l'amour est trop permanent et elle lui préfère la fugacité de l'orgasme. Et puis, au-delà d'un besoin d'inspiration, quand même, elle aime faire l'amour, elle aime jouir, se faire prendre, hurler, recommencer. On a toutes les descriptions dans tous ses romans. Elle écrit évidemment toutes les femmes retenues, comme elles le sont, par des principes ancestraux d'une fidélité stérilisante, ne sont pas capables de vivre la totalité du désir sans être culpabilisées.
Eh bien, voilà donc une grande amoureuse. Hein. Oui. On découvre, on découvre Marguerite Duras un peu différemment, finalement, grâce à vous, toujours, Anaïs.
Une passionnée, et merci, avec toujours une belle manière de le dire et de l'écrire. c'est toujours agréable.
Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a terminé sa vie par un homme beaucoup plus jeune qu'elle, plus jeune que son propre fils, qu'elle a entretenu à son tour, après avoir été une fille entretenue, et qu'il était homosexuel. Et elle disait que finalement, c'était les deux solitudes qui se rencontraient qui permettaient le couple le plus durable, en fait, qu'elle ait
vécu
de toute sa vie.
Mais le constat qu'on peut faire, c'est qu'en tout cas, elle était connectée à ses émotions et que de ce fait, elle était capable d'accueillir aussi son désir et de se rendre désirable. Et c'est un vrai sujet pour une femme comme pour un homme, mais dans une société où il y a des critères qui font que, bien souvent, on impose à la femme de rentrer dans des normes qui la rendent désirable sans que ça aille trop loin. Elle sait le faire et elle sait en jouer.
C'était en tout cas une femme libre avant l'heure, en quelque sorte.
Oui.
C'est pour ça que
vous
avez eu envie de nous en parler. Merci beaucoup Anaïs Deban. On se retrouve dans un instant avec notre caution sexuelle, je crois.
Sud Radio, Brigitte Lahaye, le quotient sexuel.
Eh bien, Robert Zwilly, c'est le moment de tester le quotient sexuel, pas le vôtre, je ne me permettrai pas, mais celui de Kéran. Bonjour Kéran. Ah.
Bonjour Brigitte.
Merci d'être avec nous, Kéran.
Merci de me recevoir.
Bon, alors on va commencer par une question. Vous ne savez peut-être pas ce qu'est le CECOS. C'est le Centre d'études de conservation de ce qui nous permet de faire des bébés.
D'accord.
Kéran. Et donc, on sait que l'homme donne son sperme, mais qu'est-ce que donne la femme ?
Les ovules ?
Oui, ça s'appelle plutôt des ovocytes.
Ah, des ovocytes, pardon, excusez-moi.
On va considérer que c'est une bonne réponse parce que... Hein, vous êtes d'accord, Robert Zwilly, on lui accorde la bonne réponse.
C'est très proche.
C'est très proche.
Vous m'autorisez de dire que c'est bon, Kéran ?
Absolument. Bon. Je vous encourage.
Merci.
C'est bon.
J'ai eu peur.
Quoi que je réponde.
J'ai eu peur.
Alors, deuxième question, quelle est la matière la plus appréciée par les personnes qui pratiquent le sadomasochisme ?
Anciennement, je dirais le cuir.
Absolument.
Mais peut-être maintenant que ça a changé, je ne sais pas.
Alors, c'était le cuir à l'époque, oui. Maintenant, c'est une matière beaucoup plus abordable financièrement, mais qui ressemble au cuir. Et c'est quoi ? Alors là, il va falloir me la donner, la matière, Kéran.
du latex, peut-être, ou du quelque chose de plastifié ?
Du latex, c'est tout à fait la bonne réponse.
Oh là là,
absolument.
Ah ben alors.
Bah oui. Et alors voilà, une troisième question qui est tout à fait à l'ordre du jour avec ce Grenelle qui vient de démarrer sur les violences conjugales.
Oui.
On parle beaucoup d'égalité en ce moment, justement, par rapport à ce Grenelle des violences conjugales. Et moi, je vais vous poser une question. En quelle année fut votée cette loi sur l'égalité des salaires, loi Roudy, pour rappeler un petit peu... un petit peu de culture dans cette question d'égalité. Quelle année fut votée cette loi Roudy sur l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes ? C'est quand même c'est important de le rappeler, je trouve, hein, aujourd'hui.
À combien d'années je peux me tromper ? Une fourchette de combien ?
Qu'est-ce qu'on lui accorde comme fourchette ? Vous avez une idée, Robert ?
Oui,
moi, j'ai la réponse sous les yeux.
Oui,
alors,
j'ai une idée, mais...
Je ne fais pas la maligne, hein, j'ai la réponse sous les yeux. Vous avez une idée ?
Oui.
Alors, combien... Non, vous ne le donnez pas tout de suite.
Ah non,
on va laisser Kéran.
Une fourchette
de 5 ans, en bas ou en haut, ça fait 10 ans.
Allez, on va dire 7 ans. Allez, moi, je vais être plus généreuse. On vous donne 7 ans.
On va dire les années peut-être 75-80.
Alors vous dites
non,
quoi comme
année? Non, du coup faut choisir. 77 alors. Je vais choisir entre les deux.
77, c'est pas mal parce que c'est 1983, donc vous êtes vous auriez ça fait 6 ans d'écart,
ouais, hein,
donc c'est bon.
Ah, j'aurais été en avance sur mon époque.
Oui, c'est ça.
Mais vous êtes jeune, donc pour vous ça paraît mais c'est quand même
c'est très récent, hein.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est quand même très récent quand on
grave.
Y réfléchit.
C'est grave même.
C'est vrai, et le droit de vote des femmes aussi, il est assez récent, c'est assez ahurissant.
Vous savez quelle année le droit de vote des femmes?
C'est en 45. Voilà.
Et le droit d'avoir son carnet de chèques sans la permission du mari, c'est 1965.
C'est dingue.
Vous vous rendez compte, c'est 20 ans après. C'est-à-dire que on a le droit de voter en 45, et d'ailleurs il y avait assez peu de femmes qui ont été votées en 45, et on a le droit d'avoir son carnet de chèques en 65.
Donc, mais du coup, quand est-ce qu'elle est appliquée, cette loi sur l'égalité salariale? Parce que du coup, ça fait peut-être...
Le problème, c'est que la loi est appliquée, mais le problème, c'est que très souvent, les femmes ont un temps partiel par rapport aux hommes. Donc forcément, un salaire inférieur. Les femmes, lors de l'entretien d'embauche, sont souvent moins exigeantes sur leur salaire que les hommes. Donc tout ça fausse un peu la situation, mais la loi a été votée et elle est respectée par les entreprises. Ne s'amusent pas à ne pas la respecter.
Sauf que quand on regarde, moi qui connais bien le monde du travail, en équivalent temps plein, sur des fonctions en moyenne, la femme est payée plus de 20%.
Oui, je sais bien.
Moins que l'homme.
Mais il y a plein d'explications qui sont faites parce qu'il y a aussi des femmes qui vont avoir des absences dues aux maternités, donc forcément vont moins gagner, vont pas. Enfin, je veux dire, il y a plein de raisons qui sont pas illégales.
Oui, c'est ce que je veux dire. Qui sont circonstancielles.
Voilà. Et c'est toujours important de bien rappeler les choses parce que, a priori...
Oui, c'est pas juste parce que la femme a moins de valeur que l'homme, c'est ça que vous voulez dire.
D'une part, et c'est pas parce qu'on veut pas payer la même chose les femmes, je veux dire, c'est les événements qui font que, dans la réalité, il y a encore une différence de salaire, je veux dire.
Bien sûr. Me semble-t-il.
Mais de même qu'il y a encore des tas de choses à... Mais moi, je suis plus, encore une fois, je l'ai dit hier sur l'émission qu'on a faite sur la violence conjugale, je crois qu'il faut aider les femmes à se respecter, avoir une bonne estime d'elles-mêmes et à oser s'imposer. Il faut aider les hommes à arrêter de considérer qu'une femme va plus souvent être malade ou absente à cause des enfants, et on va avancer. Mais c'est pas,
en refaisant encore des lois qu'on va avancer. C'est à nous, les hommes, de prendre aussi nos journées pour s'occuper de nos enfants, de prendre nos congés parentaux d'éducation, ce que je fais, et d'assumer ce rôle de père, parce qu'on est homme, on est employé, on est père aussi, quoi. Enfin, un enfant, ça se fait à deux, et puis ça s'élève à deux. Voilà.
C'est l'idéal. C'est bien de vous entendre parce que vous êtes un homme moderne. Vous avez quel âge, Kéran?
Moi, j'ai 36 ans.
Oui, donc on voit que vous êtes on voit que dans les nouvelles générations, on entend ce genre de discours qu'on n'entendait pas il y a 40 ans.
C'est ça.
Donc... Ouais, alors je mets entre guillemets, hein, mais c'est un petit combat au quotidien dans le monde du travail et vis-à-vis des collègues aussi, puisque le regard ne change pas encore. Voilà, c'est bon. Moi, j'habite pas une capitale où vous voyez quelque chose où ça se fait beaucoup. Donc c'est vrai qu'à mon échelle, je suis un petit peu le premier de la boîte. C'est une petite boîte et c'est une nouveauté pour eux, voilà. Mais j'espère, j'encourage mes collègues.
Vous n'avez pas d'ambition, Kéran, c'est ça?
Exactement.
Faites attention parce que ce second degré-là, Robert Zulli, n'est peut-être pas saisi par tout le monde.
Oui, bien sûr, évidemment. Merci de le souligner.
Mais
Kéran, évidemment, c'est du second degré.
Kéran l'a bien sûr entendu et ça fait
plaisir.
Oui,
merci.
Merci beaucoup, Kéran. En tout cas, vous avez gagné votre médaille de caution sexuelle et on vous envoie un livre, bien sûr, pour vous féliciter. La petite devinette du jour. Alors, je continue, hein, ça m'amuse beaucoup, hein, mais vous me connaissez maintenant, hein, tous. Pourquoi c'est si stupide de parler d'égalité des sexes? Vous avez une idée? Je vous donnerai la réponse après les infos. Pourquoi est-ce si stupide de continuer à parler d'égalité des sexes? Je vous donne la réponse après les infos. Bah oui, il faut oser dans la vie.
14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Avec Robert Zwilly, on va revenir donc sur nos peurs, nos peurs d'aimer, nos peurs d'être dans un rapport sexuel et d'être peut-être pas à la hauteur, jugé, etc. On parle avec vous tout ça, bien sûr, avec vous au 0826 300 300, c'est notre numéro. N'hésitez pas à nous appeler. On va donner la parole à Nathalie qui patiente depuis quelques minutes. Mais d'abord, la réponse à ma devinette. Pourquoi c'est si stupide de parler d'égalité des sexes, Robert Zwilly, vous avez une idée?
Forcément, l'idée qui vient, c'est la question de la taille et d'égalité des tailles ou des formes.
Absolument, je vois que vous me connaissez bien. Ben oui, parce qu'on n'en rencontre jamais deux qui ont la même longueur, donc il faut arrêter de parler de l'égalité des sexes, évidemment. Nathalie est avec nous. Bonjour Nathalie.
Oui, bonjour Brigitte. Pardon, et bonjour Robert Zwilly. Merci
bonjour
de m'accueillir.
Nathalie.
Allez-y, je vous en prie, Nathalie.
Ah, je vais couper le son de la radio, ça me perturbe un petit peu en même temps, décalé. Excusez-moi.
Je vous en prie.
Donc oui, effectivement, ce dont vous parlez aujourd'hui, je me reconnais bien dans ces peurs un peu sans pouvoir les mettre des mots, de quoi j'ai peur exactement, c'est difficile à expliquer. Je sais d'où elles viennent, effectivement, ça vient de la petite enfance et des traumatismes, et malgré 20 ans de psychanalyse en individuel et en groupe de parole, elles sont toujours présentes. J'ai maintenant 50 ans et je me rends compte que je suis toujours pas capable de danser, j'ai de plus en plus peur des hommes, et j'aimerais en terminer avec ces peurs qui sont sur ces fausses croyances liées donc à l'inceste de quand j'étais petite et au rejet de ma mère et du reste de ma famille, après avoir parlé de l'inceste, voilà.
Oui, c'est-à-dire que vous avez été abusée.
Par mon père, oui.
Et vous en avez parlé à votre mère qui a nié.
Qui vous a rejeté.
Ce que vous racontiez.
Voilà, à 33 ans, parce que j'avais pas du tout parlé. Ma mère était engluée dans une dépression et s'est réfugiée dans les médicaments. Donc j'ai jamais pu en parler et je pensais jamais être capable d'être maman. J'ai répété que je serais pas capable d'avoir le permis de conduire ni d'être une maman et que je serais morte à 30 ans de toutes les façons. Donc après avoir noyé tout ça dans diverses drogues et en être revenue et être devenue maman à l'âge de 33 ans, avoir passé le permis enceinte et réalisé tout ce que ça, j'avais dit que je ferais jamais, je comprends que bon, c'est des fausses croyances liées à des traumatismes, mais j'arrive pas à danser par exemple. J'aimerais arriver juste à remettre mon corps et j'ai toujours de plus en plus peur des hommes à la cinquantaine passée et ça m'inquiète. Je me dis malgré tous les psys que j'ai vus, les groupes de parole de victimes d'inceste, comment ces peurs sont toujours présentes et me contrôlent.
Peut-être tout simplement parce que dans vos thérapies, vous oui. avez beaucoup parlé, mais vous n'avez peut-être pas assez ressenti.
C'est tellement juste ce que vient de dire Brigitte. Combien de fois j'ai pu rencontrer des personnes qui avaient une parfaite conscience de ce qui s'était passé, de leurs blessures, de savaient l'expliquer, mais entre la prise de conscience et l'éprouver, il y a toute une différence qui fait la différence.
Parce que je vous entends et je vous trouve, je vous trouve très sereine pour parler d'un crime, le pire crime que puisse subir une femme. Je suis désolée, mais l'inceste, c'est le pire crime que puisse subir une femme, d'autant plus quand elle n'est même pas protégée par sa mère. Et il y a, je ne sais pas, est-ce qu'à un moment donné, dans votre travail, il y a eu de la colère?
Alors oui, une colère qui s'exprime le matin au réveil, qui était le moment où mon père donc abusait de moi. Et j'ai mis longtemps à comprendre, ça a gâché la relation avec le père de ma fille, que le matin j'étais, il disait Nathalie c'est une sorcière le matin et une fée le soir. Et c'est toujours très compliqué pour moi le matin, les réveils, il faut que je parle à personne, sinon n'importe quel, je vais trouver des prétextes à oublier ma petite cuillère avec le café pour exploser et en vouloir à la personne qui se
Parce
trouve là et qui n'est pas responsable
abusait,
de la colère.
À quel moment de la journée il abusait de vous, votre père?
Au réveil, le matin. Je me suis réveillée la première fois avec sa tête entre mes jambes et les psys m'ont dit, en plus, c'est un pervers doux. C'était pas dans la violence, quoi. C'était dans la douceur. on va dire.
Et, c'est-à-dire que vous
avez... la confusion entre la tendresse et la sexualité.
Oui, et puis ça veut dire qu'il y avait quand même par moments des ondes de plaisir qui faussent complètement...
La honte d'avoir ressenti du plaisir et jusqu'à l'orgasme, donc c'était bien difficile même à formuler dans les groupes de parole, cette honte d'avoir pu en ressentir du plaisir, tout en sachant quelque part que c'était pas normal, que c'était...
Bien sûr, et je répète, vous avez subi un crime. Mais votre corps, lui, il a appris ce qu'il avait à prendre. Vous voyez.
Mais je pense qu'il a associé le plaisir avec quelque chose de malsain, et c'est toujours présent.
Non, votre corps, il a rien associé, c'est votre esprit qui a associé, Nathalie.
Ah oui.
Votre corps, il réagit, et je dirais même qu'il est plutôt en bonne santé, puisqu'il sait prendre du plaisir au-delà de votre esprit.
Oui, c'est bien ce qu'on m'a expliqué. Là où il était, c'était physiologiquement obligatoire que j'en ressente du plaisir.
Non, c'est pas obligatoire non plus. Nathalie, je crois, et c'est vraiment important que vous compreniez bien, il y a notre corps et notre esprit, ils ne sont pas séparés. Ils sont plus ou moins reliés, suivant les personnes. Et votre corps, il exulte. Vous avez certainement un corps qui est plus libre que la... Et peut-être que même, je vais aller jusqu'à dire quelque chose qui va peut-être choquer beaucoup, mais je vais le dire, peut-être même que votre père a permis à votre corps d'exulter un peu plus tôt qu'il n'aurait exulté s'il n'y avait pas eu ces abus et ce crime.
Oui, et dans l'extrait de l'amant, en plus je reconnais la phrase de ma mère qui disait que j'avais le vice dans la peau, sans que je comprenne petite pourquoi elle disait ça, et ça a renforcé la culpabilité de dire que la sexualité c'était
oui, mais
pas
votre
normal.
Votre mère, ça l'arrangeait bien que votre père abuse de vous, comme ça elle était tranquille.
Probablement.
Donc c'est aussi une saloperie.
Eh oui, c'est pour ça que je suis un peu perdue, toujours 50 ans plus tard avec cette histoire.
Mais oui, mais parce que encore une fois, vos psys, je veux pas être méchante, mais c'est des belles paroles, mais à un moment donné, il faut être dans le concret.
Dans le corps, oui, renouer avec mon corps. Je dis souvent, c'est comme le tour de ma vie de la femme coupée en deux. J'ai l'impression qu'il y a le haut, le bas.
Et c'est pour ça que vous n'osez pas danser. Parce que si vous dansez, votre corps exulte.
Oui. Et vous êtes désirable. Donc,
c'est l'impression de m'exposer.
Mais oui, bien sûr. Donc, et comme c'est interdit, parce que tout de suite, c'est connoté péjorativement et c'est légitime, c'est impensable. Mais Brigitte a dit quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que quand on a une peur de quelque chose, et je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous avez exprimé votre colère? Et Brigitte vous a posé la question. Et parce que, en fait, une peur, elle joue du degré d'incertitude auquel on est confronté. Et on a peur de perdre le contrôle. Et effectivement, ce que vous avez vécu, c'était une perte de contrôle avec ce crime dont parle Brigitte. Mais surtout, ça a provoqué un sentiment chez quiconque vivrait ça. Ça lui paraît au-delà de l'injustice, mais qui est un sentiment fondamental qui est relatif à la colère et qui fonde le fait qu'on ait vécu un préjudice et que ce préjudice, pour en sortir, il n'y a pas 10 000 façons. Et ce qui est intéressant dans la construction émotionnelle, c'est que bien souvent, et quand vous dites « ma psychanalyse a duré 20 ans et qu'est-ce qu'elle m'a apporté ?», c'est parce qu'en psychanalyse, parfois, il s'avère qu'on traite l'émotion apparente et non l'émotion dominante. Votre émotion apparente, c'est la peur. La peur que le préjudice se reproduise. Mais l'émotion dominante, c'est la colère. Et si vous voulez vous débarrasser de vos peurs, il ne faut pas réguler vos peurs, il faut réguler la colère qui est à l'origine de cette peur. Et c'est bien souvent ce qu'on ne sait pas adresser, puisque ce dont on parle quand on a été abusé, c'est de la peur que ça se reproduise. Et jamais on n'ose exprimer cette colère profonde, cette injustice, ce préjudice qui touche à notre intégrité physique et morale, et qui est insupportable. Mais ça veut dire que si on ose le faire, on prend le risque de condamner ses parents. Qu'on ne peut pas s'empêcher d'aimer, comme tout à l'heure on l'entendait.
Oui, mais on a peur aussi de sa colère. Vous le dites bien, le matin, souvent, vous n'êtes pas à prendre avec des pincettes. Vous êtes prête à exploser. Et donc, vous avez peur d'exploser. Et donc, vous maîtrisez votre colère. Et tant que vous maîtrisez votre colère, vous ne pouvez pas vous débarrasser de votre peur.
Exactement. Et pour maîtriser cette colère, il faut sortir du préjudice. Et c'est pour ça qu'on voit des enfants qui vont faire une main courante, qui vont porter plainte, parce qu'elles ont le sentiment, au fond, qu'elles sont en train de demander réparation et que c'est un acte symbolique fort qui pose le préjudice.
Oui, c'était bien l'idée du groupe de parole, mais le père est mort quand j'avais 16 ans et la mère m'a accusé de l'avoir tué.
On s'en fout, Nathalie.
Oui. Restons
dans le symbolique. C'est-à-dire que comment vous pouvez être en colère, exprimer votre colère autrement que le matin en la canalisant. Vous voyez, vous pourriez aller faire des arts martiaux, vous pourriez faire de la boxe, vous pourriez... vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça qu'on a parfois des personnes qui ont des actes d'une violence terrible, parce que tout d'un coup, il y a la colère qui a été retenue pendant des années qui explose.
D'accord, vous voyez cette
colère-là, elle est en vous et vous n'arrivez pas à la faire sortir.
Et vous avez le droit de juger vos parents comme ayant été défaillants. Même si vous vous dites c'est un contrat qui va à l'encontre d'une loyauté parce que ils m'ont élevé, parce que ils m'ont aimé sans doute, même s'ils ont fait des choses terribles. Et c'est ça la
mais
difficulté.
C'est terrible parce qu'on est dans une société où il y a cette phrase tu honoreras ton père et ta mère. Oui, si c'est un père et une mère, c'est des géniteurs que vous avez eus, c'est pas des parents, Nathalie.
Et vous sentez la colère de Brigitte, celle que vous n'osez pas exprimer?
C'est vrai, mais chaque fois que je suis retournée vers ma mère en me disant il faut pardonner pour avancer, j'ai repris.
Arrêtez. Il y a des choses qui sont impardonnables et il faut pas pardonner, ouais. Nathalie.
Je suis d'accord.
C'est impardonnable.
Et ça, c'est le prix de sa liberté.
Et défouler cette colère. Non, mais c'est vrai, j'avais pas conscience d'être en colère, mais c'est vrai que oui, des fois j'ai envie d'exploser. Et même si j'ai une apparence très calme, ça boue à l'intérieur.
Mais évidemment.
Bien sûr.
Et vous imaginez le mal que vous vous faites tous les jours, votre corps qui a besoin d'exprimer quelque chose du feu, de violence, d'un volcan.
Du rejet.
Un volcan. Vous êtes un volcan, Nathalie, parce que vous avez un corps qui a su exulter, vous avez envie de danser, et là vous êtes là en train de mettre des je sais pas quoi sur ce volcan pour pas qu'il explose. Exploser, et je vous assure que ça ira mieux.
Fois que j'ai explosé, on m'a fait interner de force 24 heures à l'hôpital de Carcassonne.
Mais
donc
parce
je suis
passée
que pour une folle
cinglée. Ça a été hors contrôle. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'exprimer votre colère en
la
conscience,
canalisant,
vous voyez,
en la nommant. Et pour ça, il vous faut nommer les préjudices que vous avez vécus, les nommer de manière précise. Et être capable d'en demander une réparation, même si cette réparation n'est pas accessible.
Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui pourrait vous aider, Nathalie. Regardez un documentaire ou des films, on peut trouver ça très facilement, des sorciers africains qui dansent et exprimer cette colère-là de cette manière-là. Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est vrai, bah du coup la danse, ça va être l'occasion de la défouler, cette colère, maintenant que j'en prends conscience. Je pensais qu'elle était calmée, mais elle doit être toujours là à tirer les ficelles en réalité, oui.
Et oui, ça vous autorisera à redevenir désirable sans en être honteuse.
Oui, c'est ça, je sais plus les limites, en plus toutes les limites sont faussées, je dis ce qui est évident pour tout le reste des gens, pour moi ça l'est pas
du tout. Non, pas forcément,
quoi.
Nathalie, je crois qu'on vous a ouvert un petit peu
quelques pistes. Oui.
C'est à vous maintenant d'en faire quelque chose. Et puis de toute façon, on est toujours là si vous avez besoin de nous rappeler. Et je vous embrasse et je vous assure que vous êtes jeune, 50 ans, vous avez encore beaucoup
ouais,
de temps,
Nathalie.
pour remettre les bons repères en place. Je vous embrasse.
Bon,
merci de ce témoignage.
C'est la colère. Merci beaucoup. Je vais trouver comment la canaliser. Merci à vous. Bonne journée.
Merci Nathalie. Au revoir. On se retrouve dans un instant avec notre sexy news. Ambre, que vous aimez beaucoup, je sais, Robert Zulli.
Brigitte Lahaye, Sud Radio. C'est l'instant sexy news.
Bonjour Ambre.
Bonjour Brigitte.
Je ne vous présente plus Robert Zulli. Depuis que vous avez fait de la trottinette ensemble.
Bonjour
c'est
Ambre.
C'est ça. Comment va la trottinette, Robert ?
Très très bien. Elle va bien.
Ce sont des mots codés. Hein.
Oui.
Non, mais en fait, je viens d'écouter le témoignage de Nathalie qui m'a bouleversée. Là, j'allais faire une chronique un petit peu joyeuse. Et puis, je suis plus du tout joyeuse.
Il faut vous reconnecter là.
Mais si Ambre, c'est la vie
et on
aussi.
Non, j'avais juste envie de lui dire quelque chose à Nathalie.
Allez-y, oui.
Robert a exprimé tout à l'heure quelque chose qui m'a énormément touchée aussi quand il disait il faut s'occuper de sa colère. Et moi, ma colère, je m'en suis occupée au décès de ma mère. Et ma colère, je l'ai exprimée avec une photo. Voilà. Je me suis acharnée sur une photo Et je voulais dire ça à Nathalie, ça peut l'aider.
Oui, mais voilà. C'est pour ça que je parlais des sorciers. Il y a beaucoup de rituels dans la sorcellerie qui permet d'exprimer de manière très symbolique sa colère, sa haine.
C'est ça. Et bien souvent, les gens ne s'autorisent pas à aller dans la réparation, la tentative de réparation, parce qu'ils disent que ce n'est pas possible dans la réalité. Mais ce n'est pas au niveau réel que ça se joue. Bien souvent, cette réparation, elle se joue aussi au niveau symbolique. Et c'est pour ça que ça a probablement été utile, Ambre, pour vous, que de vous acharner sur cette photo, parce que symboliquement, ça avait beaucoup de valeur.
Oui, c'est ça. Voilà, allez, je vais essayer de faire ma chronique.
C'est dit, voilà.
On va parler de sexe et de gourmandise.
Tout
c'est
à fait,
c'est
tout
compatible.
À fait. Oui, mais
non,
bien
c'est
sûr.
Sale.
Non, mais Robert, si je vous dis, c'est bon, j'en veux encore, de quoi je parle?
D'une fraise avec de la chantilly, c'est ça?
C'est bon, j'en veux encore. Je parle de chocolat aussi, mais je peux parler de sexe, finalement.
Non.
Mais bien sûr que si. En fait, quand je dis j'ai envie de toi, j'ai faim de toi, et finalement, quoi, le sexe et la gourmandise, je te mangerai bien. Ce sont deux appétits qui
Lèche-moi.
Sont complètement liés.
Alors,
on va y aller, hein.
Je me calme.
Et vous savez que l'Église n'aime pas hein, ces deux appétits, le sexe et la gourmandise, ou plutôt le sexe et la luxure. Ce sont des péchés capitaux, oulala, que les hédonistes adorent d'ailleurs. Et j'ai remarqué qu'il y avait des métaphores gustatives nombreuses pour évoquer les choses
évidemment.
De l'amour. Sexe et nourriture, finalement, tout passe par la bouche.
C'est le plaisir de la chair, hein, tout simplement.
Bien sûr, on suce, on lèche, on mord, on goûte, on tète, on aspire, on avale les sexes, les tétons, les fesses, les testicules, les doigts, les orteils, la salive, le sperme, la cyprine et la sueur. On se goinfre de l'autre, on le mange, on le dévore. Et on commence par le dévorer des yeux et puis on finit par lui bouffer le cul, finalement. Donc, avec tout ce vocabulaire, on se rend compte à quel point
Vous allez finir par réussir à me mettre Robert Zulli mal à l'aise, Ambre.
Oui, moi qui suis extrêmement pudique.
Ben c'est quoi qui lui a pas plu? C'est bouffer le cul ou tu m'aimes?
Vous insistez lourdement, Ambre.
Avec tout ce vocabulaire, donc on se rend compte à quel point les liens entre le sexe et la nourriture sont très vifs. Et plus que de la nourriture, on va parler de gourmandise. Vous le savez, Brigitte et Robert, le sexe hors procréation est comme l'alimentation hors nutrition. C'est un plaisir qui ne sert à rien, on est d'accord. Et qui est la plus grande
d'ailleurs,
incarnation
est-ce qu'on mange pour se nourrir ou est-ce qu'on mange pour son plaisir?
Il faudrait pourtant beaucoup faire pour son plaisir aussi, parce que je vais y revenir après.
Mais normalement, on fait l'amour pour procréer, non?
Oui.
Vous avez combien d'enfants, Robert?
Alors,
Robert,
qui est la plus grande incarnation de ces deux péchés, le sexe et la gourmandise, à votre avis? Non, c'est pas Brigitte.
Oui. Moi,
pas Brigitte.
Non,
c'est qui?
Ben, je peux le dire, moi, si.
Oui.
Non. C'est Dionysios, non?
Eh non, c'est Ève.
Oh
c'est
bah,
Ève, parce Ève. Qu'elle a croqué dans la pomme, la vilaine. Bah, et elle a incarné, elle a fait la gourmande. Elle a fait à elle toute seule la gourmande. Et puis elle a eu accès à la luxure en croquant dans la pomme. Et elle a eu accès à la connaissance. Et l'Église déteste Ève. Voilà. Donc finalement, c'est culturel. Le sexe et la gourmandise, c'est deux potes qui s'adorent. Et j'avais envie de vous poser une question, Brigitte et Robert. Pensez-vous que les personnes gourmandes font mieux l'amour?
Non.
Que celles qui ne sont pas gourmandes.
Moi, je dis non.
Alors ça, j'en sais absolument rien. On pourrait dire est-ce qu'il y a une corrélation?
Non, ça dépend de ce qu'on appelle les personnes gourmandes. Mais les personnes
oui.
gourmandes, c'est souvent les personnes qui se resservent parce que c'est bon.
Mais
c'est pas forcément les personnes
oui.
qui font mieux l'amour. Hein. C'est pas parce que le mec il remet son cou le couvert que c'est un bon amant. Hein.
Mais est-ce qu'une jeune fille qui pinaille dans son assiette, qui veut rien manger, voilà, est-ce que c'est pas quelqu'un justement qui ne prenant pas de plaisir dans la nourriture ne prendra pas de plaisir dans la sexualité?
Oui, mais là ça c'est autre chose. Mais là vous parliez du gourmand. Moi pour
oui,
moi.
Oui, mais elle parle de la gourmande. Gourmandise qui est faite dans l'élégance, Brigitte. Pas,
ouais.
pas cette gourmandise qui fait qu'on mange jusqu'à satiété et au-delà.
D'accord, mais moi, je suis assez simple et très populaire. Pour moi, le gourmand, c'est celui qui se resserre.
Vous accepte comme
et qui a un gros ventre qui fait qu'il touche la table du studio.
Non, je parlais de la gourmandise
de
dont parle Robert, la gourmandise.
Élégante.
Voilà, c'est ça, quelqu'un qui se resserre, qui aime les plaisirs de la chair.
Eh oui.
qui fait pas trop attention à son poids parce qu'après tout, elle veut se faire plaisir, vous voyez, ou il veut se faire plaisir. Et ben moi, je trouve qu'il y a une corrélation entre les deux. Et j'ai remarqué aussi qu'on a beaucoup de mots qui parlent de sexe et qui sont aussi des aliments. Bien sûr, on parle d'abricots ou de bonbons pour la vulve. On parle de sucre d'orge ou de banane et on pourrait en trouver plein d'autres pour la verge de monsieur. Donc voilà, gourmandise et luxure, c'est vraiment lié. Et j'ai envie de dire à tous ceux qui m'écoutent que réfléchissez à est-ce que vous prenez du plaisir en mangeant ?
Bah,
oui. Si vous prenez du plaisir en mangeant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas de plaisir en mangeant, justement. Et est-ce que ce n'est pas les gens qui prennent plus de plaisir en mangeant, justement, qui arriveront peut-être à prendre plus de plaisir dans la sexualité ? Je trouve que les deux sont vraiment très, très liés.
Oui, mais voilà. je suis d'accord que savoir prendre du plaisir, que ce soit en mangeant d'ailleurs, ou en prenant sa douche, ou enfin, chaque acte du quotidien peut être un acte hédoniste.
C'est ça.
Oui, de jouissance ou de réjouissance, sans que ce soit forcément péjoratif.
Donc je vais souhaiter à tous les auditeurs qui m'écoutent plus d'appétit, on parle d'appétit sexuel, et puis je vais leur raconter la petite blague qui, j'espère, va faire rire Brigitte et Robert, ainsi que tous les auditeurs qui, sur le sujet. Donc la petite blague pour terminer ma chronique, ce sera « Connaissez-vous le point commun entre un gynécologue et un livreur de pizza ?» Brigitte et Robert.
Alors je la connaissais, mais je ne m'en souviens plus, mais
Alors,
c'est
alors,
celui qui,
Robert,
pas, qui met les
Robert, deux. Robert, enfin, oui. tous les deux la sentent, mais ne peuvent pas la bouffer. J'attends.
Je ne suis pas sûre qu'il ait encore vous avez compris.
Moi, je suis dans le vide idéationnel, là, je n'entends plus rien. Je me suis déconnecté parce que je me protège. Hein. Il y a quelque chose de diable dans vos paroles.
Il y a deux diablesses qui sont en train de tenter.
J'aimerais quand même le dire qu'on réalise hein, ce que vous incarnez là.
Sortez-moi un rire quand même, Robert, j'aime tellement votre rire.
Ah bon, c'est gentil.
Bon, je vais lui faire un dessin pendant la pause.
S'il vous plaît, Brigitte.
Merci.
Et bon appétit, Ambre.
Oui, bah merci à vous. Et merci pour cette chronique.
Bon appétit à tous, on se retrouve dans un instant.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, le Love Conseil.
Alors, on va parler de l'harmonie sexuelle, Robert Zwilly.
Oui,
d'accord.
Oui, bah c'est faites comme chez vous.
Bon, alors, je suis un peu chez moi d'ailleurs, et je suis ravie de vous y inviter d'ailleurs. Entrez dans mon univers.
Merci de m'y accueillir.
Je vous laisse entrer. Bon, alors l'harmonie sexuelle, c'est pas un rapport sexuel, hein, parce qu'il suffit pas d'avoir des bonnes érections et une lubrification suffisante pour qu'il y ait une belle harmonie sexuelle. Une bonne harmonie sexuelle, ça demande un épanouissement sexuel, et donc là, il y a trois paramètres importants. Est-ce que vous avez une idée des paramètres essentiels pour qu'il y ait une bonne harmonie sexuelle, Robert?
La confiance.
Oui, on pourrait dire ça. En tout cas, il faut déjà que les deux sexes fonctionnent normalement. Hein, sinon, s'il y en a un des deux qui est déficient, s'il y a un homme qui a des pertes d'érection sans arrêt, l'harmonie sexuelle sera difficile. Hein, on est d'accord. Donc, il faut d'abord
Que la mécanique fonctionne,
c'est-à-dire que l'érection et la lubrification, ou en tout cas la capacité à s'ouvrir, fonctionne. Bon, ça c'est le premier paramètre qui est assez anatomique, on est d'accord. Ensuite, il faut que les deux partenaires obtiennent satisfaction durant l'acte, c'est-à-dire qu'ils aient quand même suffisamment de plaisir pour avoir envie de recommencer. Vous êtes d'accord sur ce paramètre-là aussi ?
C'est utile, oui.
Bah, si, oui, on peut être généreux, être gentil, etc., mais enfin ça a des limites quand même.
Oui, 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 mais c'est fondamental ce que vous évoquez. Mais c'est pas toujours aisé pour tout le monde que de s'accorder autant de plaisir que celui qu'on accorde à l'autre.
Non, mais ça, on s'en fout qu'il n'y ait pas le même degré de plaisir. Mais
On ne le mesure pas, forcément.
Mais non, on s'en fout, ce n'est pas une égalité. On ne va pas mettre de l'égalité partout.
Moi, je trouve que, justement, on ne fait pas attention. Est-ce que les hommes ont autant de jouissance en intensité que les femmes? Franchement, je me pose la question et je trouve qu'on devrait faire quelque chose.
Non, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de douleur. Et qu'il y ait du plaisir. Et quand je dis plaisir, oui. Je ne dis pas orgasme ou jouissance, hein, je dis bien plaisir. Un rapport sexuel, ça doit apporter du plaisir. Basta. Tant mieux si en plus il y a un orgasme, hein, mais voilà, c'est mon deuxième paramètre. Ensuite, troisième paramètre, il faut qu'il y ait une bonne harmonie relationnelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un partage d'émotions, il faut que... sinon, l'harmonie sexuelle, elle ne va pas durer longtemps. s'il n'y a pas une harmonie relationnelle. C'est là où vous entrez de plein pied dans ce troisième paramètre. Si on n'arrive pas à évacuer certaines rancœurs, certaines agressivités, colère, peur, tristesse, à un moment donné, l'harmonie relationnelle ne fonctionne plus très bien et ça va donc impacter les deux autres paramètres.
Tout à fait d'accord. Et probablement, à mon sens, que c'est prépondérant. C'est-à-dire qu'il se pourrait que dans certains cas, le corps dysfonctionne parce que nos émotions ne sont pas synchronisées.
Absolument.
Et que le corps devient un symptôme de cette relation qui n'est pas optimale ou qui est parasitée par des rancœurs, comme vous évoquez, donc des ressentiments. Parce qu'on n'a pas su ensemble s'aligner émotionnellement et partager nos ressentis sans que ce soit forcément un jugement de valeur et une atteinte de l'autre.
On ne peut pas faire l'amour si on se fait la guerre au quotidien, tout simplement.
Oui.
Et ce troisième paramètre, souvent d'ailleurs, est la cause d'une panne d'érection, d'un manque de lubrification. Et c'est pour ça que les sexologues, généralement, écoutent les patients au-delà de simplement l'aspect anatomique du corps. Voilà.
Oui.
Donc ces trois paramètres, je les répète, donc un corps qui fonctionne bien, du plaisir au moment de l'acte et une bonne relation affective entre les deux êtres. Et c'est ça l'harmonie, pour obtenir l'harmonie sexuelle. Donc vérifiez et puis appelez-nous si vous avez un des paramètres qui dysfonctionne et on essaiera de réparer la machine.
Vous êtes une mécanicienne de l'amour, Brigitte.
Absolument, mécanicienne de l'amour, voilà. Bonjour David.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, David.
C'est moi qui vous remercie pour cette émission qui est pleine de joie sur des sujets qui sont parfois pénible et très intime, donc bravo pour l'exercice, c'est intéressant pour l'auditeur, et même pour moi qui suis là en attente, c'est pas évident d'arriver à parler après tout ça, c'est très bien.
Merci David. Mais c'est important, hein, parce que sinon on tombe dans du misérabilisme. Je suis consciente de la souffrance qu'il y a autour de nous, je l'entends et je la prends plein fouet d'ailleurs. Mais je trouve que c'est en me remettant de la joie qu'on peut vraiment continuer à avancer tous ensemble. Ça me paraît.
Suis d'accord.
Ça me paraît évident. Sinon, on va être comme Sardou. On va dire ah c'était mieux avant. et puis je vais devenir une vieille conne. Et ça sera pas très intéressant.
S'il vous plaît, préservez-nous de ça.
Merci.
David, on vous écoute.
Eh bien, écoutez, moi, oui, alors moi, ma maman, elle m'a dit très jeune qu'il fallait pas que j'aille regarder les filles, parce que elle allait me faire dévier de mon chemin d'études.
Mmh.
Voilà, que c'était la perte absolue. Et que, donc, je devais me concentrer sur mes études et que surtout, s'il y avait une fille qui devait, si je devais ressentir des choses ou avoir un chemin qui irait vers les filles, ce serait,
Vous tomberiez dans le vice.
Du coup, vous êtes allé vers les garçons?
mais carrément, vous avez bien touché le sujet. Je suis allé vers les garçons par initiation et même par... parce que, je sais pas, c'est comme ça, c'est la vie, j'ai pas d'explication. Mais je suis allé vers les filles aussi, quand même, parce que j'ai
eu des copines. Quand votre mère vous dit ça, comment vous l'interprétez, David? Vous entendez l'injonction qu'elle vous donne, mais comment vous interprétez ça? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez que sont les filles?
Sur l'instant, du souvenir que j'en ai, au moment où elle me dit, je sens bien qu'il y a un stress, elle me transmet une angoisse en fait. C'est une angoisse.
Oui,
c'est effrayant.
Attendez, elle vous transmet une croyance devenir peut-être la vôtre, mais comment vous l'exprimeriez, comment vous l'avez exprimée dans votre petite tête d'adolescent, cette croyance?
Eh bien, moi, j'ai cru maman.
Non, mais ça, d'accord.
Mais vous vous êtes dit, il ne faut pas les regarder, elles sont mauvaises.
Je regardais pas les filles sexuellement, je sexualisais pas les femmes en fait. Je m'interdisais toutes les envies que je pouvais avoir sur les seins ou sur le sexe ou les approches tactiles. Je le vois, je m'interdisais.
Et alors,
est-ce que de
ce fait-là, ayant des pulsions sexuelles comme tout adolescent en pleine forme, vous les avez reportées sur les hommes ou est-ce que vous aviez déjà des attirances pour les hommes?
Alors, je les ai reportés sur les hommes. Et alors, ça va être complexe pour vous, parce que j'avais aussi des attirances pour les hommes. Moi, je me sens bisexuel, en fait.
Je pense que c'était bien. C'était ma question. C'est-à-dire que, est-ce que la croyance que les femmes sont dangereuses vous aurait porté vers les hommes, ou est-ce que, de toute façon, vous aviez de l'attirance pour tous les êtres de la création?
Je pense que j'avais de l'attirance pour tous les êtres de la création. Je dois être une personne complexe.
Mais non, vous aviez, comme vous croyez votre mère aussi, vous aviez l'autorisation, finalement, puisque l'interdiction n'était pas nommée, ça veut dire qu'implicitement, vous aviez l'autorisation de pouvoir trouver les hommes non dangereux par rapport à la femme.
Mais vous avez complètement fait vibrer la corde. Voilà, ça c'est clair. Elle m'avait presque fait un chèque à blanc. Voilà,
c'est ça.
Vers un univers qui ne sera pas celui des femmes. Et par contre, j'ai eu des relations avec des femmes et j'étais très, très angoissé. J'étais très complexé. Les premiers rapports sexuels que j'ai pu avoir, je ne savais pas les avoir, en fait. Je restais dans des amitiés très câlines.
Oui, parce qu'il y avait de l'angoisse de désobéir à maman.
Et complètement. Hein. Alors, c'est vrai que ça fait sourire, mais...
C'est dangereux de désobéir à maman quand on a eu une telle injonction.
Surtout quand elle vous dit que l'objet du mal, c'est la femelle.
Ben, et puis, j'avais peur des femmes. J'ai peur des femmes, c'est-à-dire vraiment peur. C'est-à-dire la peur d'être humilié par une femme, de ne pas savoir quoi faire, en fait. Parce que c'est quand
est-ce
même
que votre
dans
mère...
l'inconscient, c'est l'homme.
Et est-ce que votre mère était assez autoritaire? Est-ce qu'elle avait un peu d'emprise sur vous? Ou est-ce que c'était...
Oui,
c'est ça,
très, très affective, hein. Très castratrice, hein. Très
envahissante.
C'était son amour.
Oui. Oui.
C'est ça qui est intéressant, je trouve, David, dans ce que vous exprimez. Et on voit bien les mécanismes émotionnels, comment ils peuvent se retourner contre soi. Et c'est souvent ce que je dis, c'est-à-dire que quand on veut combattre la peur, elle crée l'effet inverse de celui escompté. C'est-à-dire que si on avait dit à votre mère qu'en vous incitant à craindre les femmes, vous alliez désirer les hommes et éprouver cette homosexualité potentielle... Est-ce que c'était ça son objectif? Est-ce que en craignant, en essayant de vous inviter à la prudence pour pas que vous deviennent déraisonnables, que vous restiez un homme sage qui n'allait pas se perdre dans le fait d'éprouver le désir auprès des femmes et ce qui pouvait vous détourner du droit chemin, finalement, elle vous a pas tracé une route qui est peut-être à l'opposé ou peut-être pas exactement ce qu'elle imaginait? Elle en a conscience de ça?
Ah oui, bien sûr, oui, on en a parlé. Elle était surtout, l'idée c'était de pas avoir des aventures, tout court. C'est-à-dire qu'elle voulait transmettre l'idée que si je rencontrais quelqu'un, ben voilà, il fallait que ce soit la bonne. Et je trouve ça absolument terrifiant. Je veux dire, pas demander.
Vous êtes lucide
homme,
de toute façon. Vous êtes lucide aujourd'hui de ce que ça a un petit peu gâché vos premières expériences amoureuses, je suppose.
Ça a été conflictuel, mes parents, forcément, parce que j'ai réussi à m'émanciper grâce à une copine qui avait des parents beaucoup plus ouverts, mais j'avais jamais pu amener une copine à la maison pour faire un câlin ou envisager quelque chose. C'était juste impossible, quoi. Et j'en voulais à mon père qui m'a pas protégé de ça, parce qu'à la limite que ma mère soit
prudente.
Oui, voilà, mais mon père, lui, c'était un homme. Il aurait pu comprendre qu'un homme a besoin, un adolescent a besoin aussi de
peut-être,
grandir.
Peut-être que votre père, il avait aussi peur de votre mère et qu'il préférait ne pas rentrer dans le conflit. Imaginez, votre père vous aurait parlé un peu en homme de ce que c'est que les femmes, la sexualité, le plaisir que ça peut apporter, etc. Peut-être que votre mère, elle n'aurait pas été tout à fait charmante
sympa
avec lui.
Ouais, et alors, ce qui s'est passé, c'est que physiquement, dès que je commençais à me viriliser, devenir un peu sexy, voilà, ma mère, elle m'a toujours empêché, en fait, hein, insidieusement, à devenir un homme, voilà, séduisant, beau. Et ce n'est que maintenant, là, à l'âge de 43 ans, que, parce que j'ai fait du sport, parce que j'ai pris soin de moi, et que, voilà, je vous ai pas envoyé une photo, Brigitte, hein, mais voilà,
j'estime
que je me plais.
Maintenant, elle va vous la demander, hein.
J'attends.
J'arrive à me plaire, oula. J'arrive à me plaire aujourd'hui nu, voilà, je crois que ça c'est important, aussi d'avoir une bonne image de soi nu, quoi, voilà, viril. Et c'est qu'aujourd'hui, en fait, que après des échecs de couple, que je me remets en cause par rapport à l'approche vers vous les femmes que j'aime, et pour lesquelles j'ai envie de partager ce que nous avons le droit de faire, et sans avoir d'angoisse ou de d'humiliation ou de ressentir
C'est fou ce que vous venez de dire, hein, ce qu'on a le droit de faire. Mais est-ce que c'est un droit?
C'est justement.
Mais à partir du moment où ça lui a été interdit, il l'assimile à un droit. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce que vous savez exprimer aujourd'hui. C'est qu'au fond, il y a plusieurs enjeux. Bien sûr, votre mère a voulu vous protéger des femmes. Mais parce qu'avoir une femme, c'était vous éloigner d'elle.
Vous êtes gentil, hein, je crois que la mère de David, elle a surtout voulu, voulu garder son petit garçon.
Mais bien sûr. Bien sûr. Mais en voulant le garder, elle l'a perdu en l'offrant à d'autres.
Vous êtes d'accord avec quoi, David ?
Oh, qu'elle a voulu nous garder, oui. Qu'elle a voulu,
Alors, elle l'a pas fait exprès, hein. Moi, je veux pas. Enfin, je veux dire, elle a fait comme elle a pu, comme la plupart d'entre nous, hein. Mais en attendant, vous a fallu du temps pour vous accorder le droit de faire ce que vous avez envie de faire avec une femme.
Si Brigitte vous donne l'autorisation de vous intéresser aux femmes, qu'est-ce que vous allez faire ?
Il y a longtemps que je lui ai donné à David, hein, non ?
Je pense qu'il faut lui dire.
Non, David, à force de m'écouter, ça y est, vous vous l'êtes accordé, cette autorisation.
Je pense qu'il avait besoin d'entendre.
Oui, ça fait du bien de l'entendre. Bon, je ne sais pas si c'est les mots qui font que ça déclenche tout, mais c'est aussi, je pense que chacun fait son chemin aussi. C'est une forme de courage aussi. Je pense qu'il faut, à un moment donné, essayer de sortir de ses certitudes. Et puis, de toute manière, il faut laisser parler le corps aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je vais prendre confiance, là. Je vais sortir des sites internet aussi, parce que faut croire ce qui est, même s'il y a beaucoup d'applications aujourd'hui qui permettent de dialoguer, de rester en sécurité, moi, j'ai envie de me lancer maintenant, voilà, dans des cours de danse, où la drague pourrait se passer, on va dire, plus directement, dans des bars ou dans des lieux de, même des collègues de travail, voilà, me lancer comme ça, vous voyez. Peut-être pas des collègues de travail, mais dans une approche vis-à-vis de la femme plus directe.
Mais pourquoi pas, si vous le faites de manière élégante et polie, oui. Pourquoi pas une collègue de travail ? Encore une fois, faut pas tomber non plus dans le...
Oui, mais vous voyez la tentation qu'a David de quand même se limiter et de revenir à des interdits qui pourraient lui permettre d'avoir un chemin sécurisé. Faut vous autoriser cette liberté de ne pas savoir à l'avance qui vous pourriez draguer, qui vous pourriez conquérir et vous accorder ce choix, même impromptu. Et ce serait la plus belle des surprises et le plus beau des cadeaux que vous pourriez vous faire.
En tout cas, je peux vous dire que je suis vraiment très heureux de cet été parce que j'ai vraiment regardé de magnifiques corps de femmes et je vois bien que voilà, mon regard il va pas m'orienter vers ce que je n'ai pas envie d'avoir ou de toucher. Par contre, pendant longtemps, je ne m'étais pas autorisé ces corps-là. Parce que je ne m'estimais pas à la hauteur. Je me suis dit, je ne peux pas mériter ça. Et justement, je fais beaucoup de travail sur moi, notamment physique, parce que vous parliez de gourmand tout à l'heure, en se posant la question, est-ce que les gourmands seraient des meilleurs amants ou pas ? Je ne sais pas, parce que c'est vrai que c'est important d'avoir un corps aussi qui soit... qu'on soit en phase avec son corps déjà, pour avoir confiance en soi, ne serait-ce que cela. Et d'être sexy, je pense que chacun a son idée de ce qu'est être sexy. Mais moi, en tout cas, j'ai vraiment fait attention à mon alimentation, et à ma manière de vivre pour justement me ressentir bien prêt pour ressentir une personne que je désirerais sans me complexer sur l'idée que elle puisse me rejeter parce que je serais ingrat ou
en tout cas ce que j'entends David dans ce que vous dites c'est que vous commencez à vous aimer à aimer votre corps et pour l'instant vous avez encore besoin que ça réponde à certains critères esthétiques c'est pourquoi pas mais ressentez et soyez dans votre corps. C'est pas forcément parce qu'on a 3 kilos en plus ou en moins qu'on va plus ou moins plaire. C'est parce qu'on est bien dans son corps et bien dans sa vie, bien dans ses émotions qu'on va plaire ou qu'on ne va pas plaire. Merci en tout cas beaucoup David de votre confiance et de votre témoignage. On se retrouve dans un instant, toujours avec vous bien sûr sur Sud Radio 0826 300 300.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Avec Robert Zuilly qui est avec nous, on a beaucoup parlé bien sûr de nos émotions et on a parlé aussi de nos blessures d'enfance. Je voudrais rappeler que Robert Zuilly a écrit beaucoup de livres sur les émotions des enfants, c'est aux éditions Mango. N'hésitez pas, on peut les trouver évidemment vous allez vous taper Robert Zuilly et comprendre les émotions de nos enfants aux éditions Mango et vous aurez la possibilité de peut-être vous enrichir un peu plus parce que évidemment on a dit beaucoup de choses pendant ces deux deux heures, mais il y en aurait tellement à dire sur toutes nos émotions. On va conclure avec Mathieu qui est avec nous. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Avec plaisir.
Alors vous avez également eu une enfance un peu difficile, hein, je crois.
Ouais, moi c'était avec le temps maintenant, je sais que c'était ma mère qui était un poison dans la vie de tout le monde. Et du coup, après, ça a été au début difficile, un peu plus jeune, quoi, parce que maintenant, je suis plus vieux et ça va mieux, mais plus jeune, c'était compliqué d'avoir des notions de bien, de mal, de savoir ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait pas faire, ce qui était grave, ce qui était pas grave.
Et c'est ça qui est important, Mathieu, parce que on parle bien sûr du bien et du mal très souvent, notamment dans des questions de morale, etc. Mais quand enfant, on n'a pas eu des repères clairs. À la limite, on peut avoir des repères qui sont pas les bons. Mais le pire, c'est les repères qui ne sont pas clairs. C'est-à-dire que, et dans ce que j'entends, c'est que, en effet, bon, vous pouviez prendre, je dis n'importe quoi, parce que je ne connais pas votre enfance, et puis j'ai pas envie d'être indiscrète, mais vous pouviez prendre une gifle parce que vous aviez bien mis la table, et puis le lendemain, avoir une caresse parce que vous avez cassé un verre. Donc là, comment on peut, après, se construire avec une bonne notion de ce qui est bien et de ce qui est mal. Alors, bien sûr, la société, avec ses lois, etc., est là pour nous aider à avoir les bons repères. Mais quand enfant, on a été dans des familles complètement dysfonctionnelles, c'est en effet très compliqué.
C'est ça, en fait. C'est qu'après, moi, c'était pas plutôt une caresse pour la... Enfin, les caresses, j'ai pas trop connu, en fait. Je prenais...
Oui, j'avais bien compris.
C'était plutôt à la bonne ou à la mauvaise journée qu'elle avait passée.
C'est ça.
Que
voilà.
Je savais si ma journée à moi allait devenir plus mauvaise ou si elle allait être bonne journée. Et après, le truc, c'est que...
On devient méfiant.
Oui, on devient méfiant et on devient surtout violent. Enfin, moi, c'est surtout ce que j'ai connu, en fait. Et du coup, après, quand ils m'ont mis dehors, j'avais 17 ans, en fait, ils sont partis en vacances, ils ont changé les serrures de la maison. Et bon, moi, je rentrais du travail et ben, j'ai pas pu rentrer chez moi. Enfin, chez eux.
C'était chez vous aussi. Hein.
Et 17 ans, vous n'êtes pas
majeur encore, donc c'est chez vous. C'est de la maltraitance.
Je me suis retrouvé un peu à livrer à moi-même, quoi. Mais c'est une tente en sac de couchage. Et c'est un ami qui était plus vieux que moi, en fait, qui m'a recueilli chez lui. Mais le seul moyen que j'avais de m'exprimer quand j'étais jeune, je savais, c'était me battre, quoi. J'ai passé presque, je dirais bien, au moins 8 ans de ma vie à savoir m'exprimer que par la violence, quoi. C'était
bien sûr.
Et je me sentais respecté par ça, parce que je voyais que les gens avaient peur, et plus ils avaient peur, et moi mieux je me sentais en moi, quoi.
Bah oui, parce que ça vous vous pensiez, les voyant avoir peur, que vous n'aviez plus peur.
Ouais, c'était un peu un sentiment, comme je me sentais, moi en tout cas, plus en sécurité. Et il a fallu que, voilà, j'ai eu la chance de rencontrer une fille relativement bien, mais qui a quand même beaucoup souffert avec moi, et qui m'a permis de un peu d'ouvrir les yeux, et que la vie c'était pas ça, quoi. C'est pas
un ring de boxe.
Non, voilà, et puis que ça servait, et puis tout se résout pas comme ça, surtout.
Oui,
c'est ça, surtout.
Mais tout à l'heure je parlais de modèle. Forcément, le modèle que vous avez eu et que vous avez reproduit d'une certaine manière, c'est celui de la violence. Quand on met son enfant à la porte en changeant le verrou, c'est d'une violence absolue. Donc, comment élaborer ce rejet que vous avez subi en dehors du sentiment de violence et de la colère que ça a pu vous faire ressentir, et comment vous en débarrasser qu'en étant vous-même porteur de cette violence? C'était un moyen de l'exorciser, ce que vous aviez vécu en étant violent.
Ouais, c'était un peu ça. C'est vrai que la colère, elle reste, quoi. Après, enfin, je sais qu'après, elle a campé, mais même après, quand j'essayais de... Parce qu'après, c'est un travail... Il n'y a personne... Les gens peuvent nous aider aux alentours, mais la meilleure personne qui peut aider, c'est nous-mêmes, quoi.
Bien sûr.
Que tant que nous, on ne décide pas de faire différemment ou de connaître autre chose, on peut pas avancer professionnellement, oui. Sentimentalement, enfin.
Mmh. Vous avez dit une chose importante aussi tout à l'heure, Mathieu, c'est vous avez dit j'ai rencontré une femme à peu près bien, je sais plus quelle formulation vous avez utilisée d'ailleurs, mais vous voyez on a quand même besoin des autres qui nous servent parfois de déclencheur.
Mais l'autre est notre miroir. Hein.
Voilà, et c'est pour ça que je dis parfois à certains qui me disent « mais j'ai pas besoin des autres pour m'en sortir », mais il n'y a rien de plus honorable que d'accepter l'aide des autres, d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que vous avez fait en étant dans cette relation avec cette femme qui peut-être vous a ouvert les yeux, aidé à renégocier le sens de la relation et vous éviter d'être toujours dans l'expression de la colère et de la violence pour vous sentir exister.
On est en fin d'émission, Mathieu, je suis obligée de vous couper, mais on vous redonnera la parole quand vous voulez, bien sûr, si, parce que vous avez certainement encore beaucoup de choses à nous dire, à nous apprendre. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de C'est votre avenir. Merci à tous de nous avoir confié vos peurs, vos souffrances. Merci à vous, Robert Zwilly, de nous éclairer sur ce qui nous fait humains, nos émotions. Je vous embrasse et je vous dis à demain.